Je veux juste prendre une minute pour vous parler de ce qui va se produire suite à la nomination lors de la conférence de presse du 6 juillet dernier de la nouvelle gouverneure générale. Il y a eu pas moins de 430 quelques plaintes officielles formulées au commissariat aux langues officielles du Canada. Celui qui est le commissaire à cet organisme-là, eh bien, dit « Écoutez, depuis ma nomination, moi, j'en ai jamais vu autant de plaintes concernant cette affaire-là. » C'était concernant, évidemment, l'incapacité de la candidate pour être gouverneur général de parler en français. On a entendu les explications, on a entendu les raisons et les motifs pour lesquels cette dame-là n'a pas été capable d'apprendre le français en bas âge, mais elle a quand même 60-quelques années, je n'enlève rien à sa compétence, mais probablement que lorsque tu occupes des postes aussi importants que, ceux qu'elle a occupés, c'est-à-dire ambassadeur à l'étranger, probablement qu'il y avait aussi là une possibilité en Norvège d'apprendre d'autres langues que sa langue maternelle, que je respecte tout à fait. Je n'enlève pas un cheveu de sa compétence, absolument pas. Mais je questionne plutôt quel le système de nomination qui a fait en sorte que, au bon vouloir du premier ministre et du comité, on en arrive à une nomination pour des fins de réconciliation qui, celles-là, évidemment, sont certainement teintées d'une certaine couleur politique et d'intérêt politique, mais véritablement, oui, pour une réconciliation, j'en suis tout à fait d'accord et je partage. Cependant, aurait-il été possible de trouver un candidat ou une candidate tout aussi autochtone, tout aussi compétent, qui avait la capacité de parler aussi le français? Le cas échéant, est-ce que vous croyez qu'une nomination d'un unilingue francophone avec une autre langue d'origine qu'il avait par ailleurs parce qu'il serait venu au monde ailleurs ou aurait l'opportunité d'avoir une culture étendue, qui n'aurait pas parlé anglais, aurait pu être nommé? Je ne pense pas. Et je ne fais pas de politique ici, j'essaye juste d'analyser objectivement la situation. Maintenant, qu'il y ait 435 plaintes qui ont été faites au commissaire aux langues officielles, est-ce que véritablement ça peut faire quelque chose? Il y aura enquête. Cet organisme est purement là pour analyser des choses, faire des recommandations, mais certainement pas sanctionner quoi que ce soit d'une décision qui émerge du gouvernement de Justin Trudeau. C'était mon commentaire. Je me questionne encore. Avant même de me questionner sur l'institution comme telle, je me questionne sur la façon dont on remplit ces fonctions-là. Depuis trois gouverneurs généraux, on a eu un petit peu de misère. C'est arrivé pour d'autres motifs que ceux-là, bien sûr. On va aller, si vous le voulez bien, maintenant dans notre tournée que nous faisons du Québec pour des raisons touristiques, parce qu'on veut savoir dans nos régions comment ça se passe. Hier, on était en Gaspésie. Demain, on sera aux Îles-de-la-Madeleine. On va aller rencontrer Pierre-Olivier Normand, qui est coordonnateur aux communications et à la commercialisation à Tourisme Côte-Nord. Bonjour. Comment ça va, monsieur?
Bonjour, monsieur Mongrain. Ça va très bien vous-même?
Très bien. Comment ça se passe? Avez-vous de la visite? Pas mal. Y a-t-il de l'activité touristique?
Ça serait de mentir que de dire qu'il n'y a pas de trafic sur la Côte-Nord présentement. On est agréablement surpris de dire qu'on est une région qui est très en demande cet été.
Est-ce que vous avez la capacité d'accueillir et de recevoir? Parce que partout, on me dit qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre.
Écoutez, la main-d'œuvre, c'est la grandeur du Québec. Maintenant, pour la capacité à recevoir la Côte-Nord, vous savez, là, c'est une région qui est aussi grande que certains pays du monde. Donc, on a en masse de place pour recevoir les gens. L'important là-dedans, c'est que lorsqu'un touriste désire venir visiter la Côte-Nord, c'est la planification qui est l'élément clé.
Il faut qu'il soit préparé. On ne peut pas arriver là, de but en blanc, puis de dire, bon, ben c'est beau, on est arrivé, on passe une semaine. C'est pas demain que ça marche.
Ben préférablement, c'est toujours de se renseigner, de savoir où est-ce qu'on s'en va, les lieux où est-ce qu'on peut faire des arrêts. Par exemple, si on arrive de la grande région de Montréal, bien, d'arriver par Tadoussac ou d'arriver directement à Baie-Comeau, bien, c'est de savoir où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va coucher, les stations d'essence ou ce qui pourrait être. Donc, c'est sûr que c'est de se renseigner. C'est un peu l'idéal. Puis nous, du côté de l'ATR de Tourisme Côte-Nord, bien, c'est un peu notre travail à nous de donner cette information-là aux gens, donner peut-être les petits lieux secret ou caché qui pourrait justement plaire aux touristes. Donc, c'est vraiment de donner le maximum d'informations pour que les gens aient le meilleur séjour sur la côte.
Vous l'avez mentionné tantôt, ce territoire est vaste. Il permet le plein air, des grands espaces. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont privilégiés? Est-ce que les gens disent « Ah ben moi, je m'en vais à Saint-Côte-d'Or, je m'en vais à telle place. » C'est un incontournable.
Bien, cet été, on remarque une grande affluence là, du côté de la Mingani, donc du côté de Havre-Saint-Pierre, Natashquan et Longue-Pointe-de-Mingan. C'est des lieux qui sont très, très prisés par les touristes. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a la magnifique Natashquan, qui est le village là, du célèbre poète québécois Gilles Vigneault, mais aussi l'archipel des îles Mingan, qui est vraiment en demande. C'est magnifique à voir aller. Les touristes viennent vraiment en masse. Mais du côté de Sept-Îles et même en Haute-Côte-Nord, donc de Tadoussac à Les Escoumins, c'est bien en demande puis c'est agréable à voir aussi.
Quand on parle d'aller faire un tour là-bas, est-ce que c'est, excusez-moi l'expression anglaise, c'est un road trip? Il faut circuler, c'est la façon de voir la Côte-Nord ou si on peut s'installer à un endroit puis là rayonner jour par jour ailleurs? C'est tellement grand, c'est un pays dans le pays.
Bien, vous le dites si bien, c'est un pays dans le pays, puis il y a moyen d'être vraiment versatile puis polyvalent sur la Côte-Nord. Il y a moyen de faire un road trip, de dire, moi, je vais sur la Côte-Nord pour, par exemple, visiter les microbrasseries. On a 4 belles microbrasseries étalées sur tout le territoire, il y a moyen de le faire. Mais il y a moyen aussi de dire, ben moi, je vais demeurer, par exemple, à Tadoussac et visiter les environs. Donc, on peut le dire, en étant une grande région, on a une polyvalence qui permet aux gens de pouvoir visiter une panoplie de choses ou décider d'être un peu plus pointu puis de décider de rester à un seul endroit puis de profiter de l'occasion.
Est-ce que ça ressemble pas, ça a beau être repartir, on me dit dans certaines régions que, bon, oui, ça fait du bien, ça met un baume sur les plaies et les pertes, mais ça ne réglera pas cette seule saison estivale le problème économique touristique de la région.
Bien, vous savez, M. Mongrain, on est une des seules régions au Québec là, du côté de la portion du Plessis, donc les environs de Sept-Îles, aller jusqu'à la fin de la Mingani, qui, lors de l'année 2020, on a enregistré un taux d'occupation des hébergements, donc hôtels, gîtes, auberges, positif. Donc, c'est sûr que ça, pour nous, c'est une fierté. Par contre, comme vous le dites, c'est sûr que les prochaines années, plus il va y avoir de l'influence, mieux ce sera pour le développement de notre région. On est une région vraiment en développement touristique, puis ça va être vraiment intéressant de surveiller. Puis du côté de Tourisme Côte-Nord et tous les intervenants du côté touristique, bien, on met l'épaule à la roue, on travaille très fort pour justement développer notre région, pouvoir, bien, on est déjà une région très accueillante, mais pouvoir l'être encore plus.
Il y a des endroits qui sont tout à fait charmants au point de vue tourisme, mais qui sont des endroits où l'on passe. Est-ce que la Côte-Nord, c'est un endroit où on demeure, où on reste?
Bien, c'est un peu le défi d'attraction de la Côte-Nord. C'est un peu notre date qu'on a avec les touristes qui viennent cet été. C'est de montrer justement qu'on n'est pas une région juste de passage, mais qu'on est une région qui peut offrir tous les services, première des choses, mais aussi qu'on est une région où il fait bon rester, demeurer. Il y a des merveilleux emplois et c'est sûr que parmi ça, il y a des excellents employeurs qui peuvent offrir des emplois vraiment très intéressants pour les gens qui voudraient venir s'établir chez nous.
Bien, merci beaucoup de ces informations, Pierre-Olivier. Bonne saison touristique. J'espère que ça va bien aller, bien sûr. Mais déjà, c'est un pays charmant. On va certainement tenter d'aller faire un tour à un moment donné. Merci beaucoup, Pierre-Olivier.
Merci, M. Mongrain, et vous êtes le bienvenu quand vous voulez.
Merci beaucoup, Pierre-Olivier Normand, qui est le coordonnateur aux communications et à la commercialisation de Tourisme Côte-Nord. On fait comme ça le tour du Québec. Demain, c'est les îles de la Madeleine que nous allons aller rencontrer pour savoir comment ça se passe, la relance touristique là-bas. Parce que là, évidemment, dans une semaine, la clientèle américaine, dans un mois ou à peu près, deux mois, le 9 août, la clientèle américaine va pouvoir venir ici. On s'arrête pour les informations, puis on poursuit tout de suite après, bien sûr. Il y a du smog, hein? Il faut faire attention.